Vous écoutez
RMC.
Il est 8h et vous avez choisi RMC. Vous avez bien fait. Très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. On va faire un point complet dans ce journal sur la tempête Niels, qui est déjà une des plus grosses tempêtes des dernières décennies en France. Un chauffeur de camion mort dans les Landes. 850 000 foyers sans électricité. Des stations de ski carrément fermées dans les Alpes et pas d'école ce matin dans l'Aude. Vous verrez aussi dans le journal que le gouvernement décide de lever le pied sur l'éolien, nouvelle stratégie en matière d'énergie. Et nous retournerons à Milan aux Jeux Olympiques au lendemain de la médaille d'or historique en danse sur glace.
On vit en ce moment une des plus grosses tempêtes des dernières décennies.
Oui, Géraldine nous dit que le vent a soufflé cette nuit à 162 km/h à Biscarrosse, dans les Landes, où un chauffeur de camion est mort sur une 4 voies près de Dax dans un accident de la route provoqué par la chute d'une branche d'arbre, et c'est en lien avec la tempête, nous dit la préfecture. Le vent souffle tellement fort en ce moment qu'il y a énormément de dégâts ce matin, des arbres et des poteaux électriques par terre, d'où ce chiffre, Romo, que vous allez nous détailler pour RMC, de 850 000 foyers qui se réveillent ce matin sans électricité.
Oui, dont 485 000 en Nouvelle-Aquitaine, la région pour l'heure la plus touchée, et 318 000 foyers privés de courant en Occitanie. Le gestionnaire ne s'avance sur aucun horaire de retour à la normale, précisant que 1000 techniciens avaient été prémobilisés dès hier soir pour intervenir dès que les conditions le permettront. Ce qui doit attirer l'attention ce matin, c'est qu'on ne parle là que du bilan à 6 heures, il y a déjà 2 heures. Ce sont donc des chiffres fortement susceptibles d'évoluer dans les prochaines heures, avec les rafales de vent parfois très violentes qui soufflent en ce moment même sur le sud-ouest du pays. 850 000 foyers privés d'électricité, c'est pour l'instant l'un des plus lourds bilans donnés par Enedis lors d'une tempête ces 30 dernières années. Le record reste pour les tempêtes de 1999, Lothar et Martin, 3 600 000 foyers concernés. La tempête Kieran en 2023 avait-elle privé environ 1 200 000 foyers d'électricité.
Et donc là, nous sommes à 850 000 ce matin. Il y a très peu de trains régionaux, tiens, au moment où on se parle, dans l'ouest de la France. La SNCF fait même circuler des trains avec des bûcherons à bord pour dégager les voies en cas de chute d'arbres. Il y a plein de villes qui ferment leurs parcs et jardins dans l'ouest, Bordeaux, Pau, La Rochelle. Alors, il y a le vent, mais il y a aussi la pluie qui tombe sur des sols déjà gorgés d'eau. Ça fait monter les niveaux. Voilà pourquoi la Gironde et le Lot-et-Garonne sont en vigilance rouge pour les crues. Pierre Bourgès, vous êtes en direct ce matin depuis La Réole. C'est une petite ville entre Marmande et Langon. Et Pierre, vous constatez depuis hier soir que l'eau monte.
Oui, exactement. Toute la nuit, le niveau de l'eau est monté. En quelques heures, j'ai pu moi-même voir la différence. Où je me trouve, près des quais de La Réole, vers 1h cette nuit, le parking et la route étaient encore visibles. Et bien maintenant, tout a été englouti par la Garonne. L'eau frôle désormais les habitations. Elle y est même quasiment. Ici, le niveau de l'eau augmente de 7 à 10 cm par heure. Il a passé les 7,5 m cette nuit. Et le niveau vient à l'instant d'atteindre les 8 mètres, hein, puisqu'on vient d'entendre la sirène de la mairie l'annoncer. 8 mètres, c'est vraiment un seuil qui inquiète la mairie et les habitants ici, puisque c'est là que les premières maisons, celles sur les quais, pourraient être inondées dans les prochaines heures. Hier soir, deux familles ont demandé à être évacuées de manière préventive. Elles logent désormais dans l'internat du lycée de la commune. Vigicru maintient sa vigilance rouge sur le secteur pour l'instant et prévoit des débordements très importants dans la journée. C'est donc loin d'être fini.
Des sirènes pour annoncer ces inondations qui retentissent ce matin. L'accès au quai, tiens, est fermé aujourd'hui à Toulouse. Et alors, c'est rare et ça tombe mal en pleine vacances scolaires. Mais de l'autre côté de la France, dans les Alpes, des stations de ski sont carrément fermées ce matin. C'est le cas de La Plagne, Chamonix et Courchevel le sont en partie. Pareil à l'Alpe d'Huez et aux deux Alpes, en raison du risque d'avalanche qui est de 5 sur 5, soit le niveau le plus élevé. Ça arrive pas souvent, nous dit Fabrice Boutet, qui est à la tête d'un grand groupe de stations de ski.
5 sur 5 signifie que tous les aspects météorologiques ne peuvent pas être maîtrisés. Il y a un peu d'eau, il y a donc un peu de pluie, ensuite il y a beaucoup de neige, il y a du vent, il y a un phénomène météorologique qui nous pose beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes, et c'est donc une décision de se dire il faut sécuriser au maximum, quoi. Surtout ne sortez pas des pistes ouvertes et balisées. Vous avez beau être le meilleur mondial, vous êtes pris au genou, vous pouvez plus bouger, vous pouvez pas lutter contre. Respectons les consignes et soyons tous prudents les uns vis-à-vis des autres et prudents vis-à-vis de soi-même, et on pourra skier tous ensemble sans prendre de risques.
Et alors ce matin, c'est près de la Méditerranée que ça souffle le plus fort, vient de nous dire Géraldine. Les écoles sont fermées dans l'Aude, tous les établissements scolaires, en fait, pareil, dans une partie des Pyrénées-Orientales. Ça n'a rien à voir avec la tempête et les coupures d'électricité, mais c'est aujourd'hui que Sébastien Lecornu va dévoiler la nouvelle stratégie de la France en matière d'énergie pour les 10 ans à venir. On va réduire, sachez-le déjà, la voilure sur l'éolien et le solaire. C'est ce que dira le Premier ministre depuis un barrage du Jura aujourd'hui. Sébastien Krebs, vous êtes le chef du service politique à RMC. C'est le nouveau dossier explosif du gouvernement.
Oui, sujet très éruptif. Le RN hostile aux éoliennes en a fait un motif de censure, d'où les reports successifs des différents gouvernements depuis 3 ans. Alors ce matin, Sébastien Lecornu présentera ce qu'il voit comme un compromis. Oui, le gouvernement assume faire le choix du nucléaire avec 6 nouveaux EPR, sans pour autant mettre un coup d'arrêt aux renouvelables. Pas de moratoire sur les éoliennes, mais un coup de frein quand même. Priorité à l'éolien en mer, loin des côtes, et sur terre, on se contentera de moderniser l'existant. Le gouvernement va aussi encourager l'installation de panneaux solaires sur les toits des grands bâtiments, type centres commerciaux. L'objectif, c'est de diviser par 2 la part des énergies fossiles en 10 ans, 30% maximum en 2035, et de faire face à des besoins en électricité qui vont fortement augmenter dans les années à venir.
Bon, vous avez bien compris qu'on surveillait le ciel ce matin. Normalement, le temps sera clément aujourd'hui en Italie aux Jeux Olympiques.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan Cortina.
Et on suivra dès 10h ce matin sur RMC les épreuves de border cross en snowboard dans la station de Livigno. Les Français ont de grandes ambitions, ils le disent, pour ces courses de snowboard sur une piste avec des bosses. C'est très télévisuel, c'est très joli à regarder. Mais on est encore sous le coup de l'émotion ce matin, l'émotion d'hier soir à la patinoire de Milan avec la médaille d'or en danse sur glace pour Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry. C'est vous qui avez commenté cette médaille d'or, Arnaud Valadon, en direct ce matin avec nous, leur entraîneur, et vous allez nous dire pourquoi dit que c'est exceptionnel.
Et pour plusieurs raisons, Quentin, jamais dans l'histoire de la discipline, des danseurs avaient réussi à être champions olympiques. Après seulement 1 an de collaboration, tous leurs adversaires ont au moins 10 à 15 ans de vécu ensemble. Ensuite, Cizeron devient le premier danseur sur glace de l'histoire à gagner 2 titres olympiques avec 2 partenaires différentes. Ça non plus, cela n'a jamais été fait. Le patineur français a aussi une médaille d'argent obtenue il y a 8 ans, et avec 3 médailles olympiques au total, dont 2 titres, il rejoint un cercle assez restreint, surtout pour un patineur. Fournier-Baudry et Cizeron ont aussi fait face à beaucoup de vents contraires. Un juge américain a fait changer leur musique sur le programme court à seulement 5 mois de Milan Cortina. Seront-ils présents dans 4 ans pour les Jeux en France? Leur entraîneur le souhaite. Mais pour l'instant, Cizeron, qui aura 35 ans, et Laurence Fournier-Baudry, 37 ans, n'ont pas souhaité s'avancer.
Arnaud Valadon, en direct des Jeux Olympiques que vous suivez sur RMC Radio Officielle. Avec les 4 médailles d'hier, la France fait un bon au classement et remonte à la 6e place du tableau des médailles.
Magnifique. C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08, on va parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel Le Chypre, les patrons européens se désespèrent. L'Union européenne ne prend toujours aucune mesure d'ampleur face au rouleau compresseur chinois et au protectionnisme américain.
Oui, il y avait un grand rendez-vous de l'industrie européenne hier à Anvers. Et au cours de ce rendez-vous, plus de 1300 chefs d'entreprise ont lancé ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui l'appel d'Anvers à Alden Biedzen, destiné au sommet des 27 qui se tient aujourd'hui dans ce château belge pour accélérer l'agenda de compétitivité européen. Leur message, 1 an que le rapport Draghi a été publié, seuls 15% de ces 383 recommandations ont été mises en œuvre. Les capacités industrielles de l'Europe se détruisent à une vitesse jamais vue et ses patrons ne comprennent pas pourquoi l'Europe est si lente et si timide.
Est-ce qu'on a les moyens de tenir ce bras de fer avec les États-Unis et la Chine ?
Et comment, Apolline ? L'Europe a les muscles pour ça. Face à la Chine, par exemple, est-ce que vous savez que pour les produits stratégiques que la Chine doit importer de l'étranger, la chimie, la pharmacie, l'électronique, de l'agroalimentaire, la Chine est 3 fois plus dépendante de l'Europe que des États-Unis. Alors qu'on présente toujours le duel États-Unis-Chine comme étant le duel majeur. Tiens, les États-Unis, justement, ils sont plus dépendants de l'Europe que l'Europe ne dépend d'eux, notamment pour les médicaments et vaccins pour lesquels ils n'ont pas de substitue. Soulignons enfin que l'Europe finance avec son épargne la dette des Américains, 400 milliards par an quand même, hein, que l'Europe est le premier marché du monde en termes de consommation et de débouchés, et que si vous regardez en termes de recherche fondamentale, eh bien l'Europe n'a pas à rougir face aux États-Unis et à la Chine, que vous preniez le nombre de brevets déposés, le nombre de chercheurs, etc. Et pourtant, par naïveté, par lâcheté, par idéologie, ces muscles-là, eh bien, l'Europe ne les montre pas.
Ça me désespère. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on a à s'en prendre qu'à nous-mêmes.
Mais c'est ça, c'est exactement ça. Alors, Ursula von der Leyen, hier, a fait des promesses, hein, des investissements doublés dans les transitions industrielles, la réduction des coûts administratifs de 15 milliards, une simplification des réglementations. Est-ce que vous avez, par exemple, que le poids autorisé pour un camion en Belgique, c'est 44 tonnes, mais c'est seulement 40 tonnes en France? Allez savoir pourquoi. Donc, elle promet pour mars le fameux 28e régime. Vous savez, c'était cette proposition de dire qu'en Europe, il y a 27 codes du commerce, 27 réglementations différentes. Allez, on va créer un 28e européen qui sera le même pour tout le monde. Et on pourra créer une entreprise en 3 jours. Bah ça, elle nous dit que ce sera pour le mois de mars. Elle a promis aussi des efforts sur l'énergie, dénoncer des prix trop élevés, trop volatiles. Bon, tout ça, c'est bien, mais ça reste quand même très lent.
Merci Emmanuel, il est 8h11.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, il y aura Arnaud Demanche qui nous rejoint à 8h30. Notez que mon invité, ben, si c'était lui, Michel-Édouard Leclerc, il prend le top numéro 1 des personnalités politiques préférées des Français. Michel-Édouard Leclerc qui répondra à mes questions sur RMC et BFM TV. Juste après ça, comme tous les matins, il y aura Nicolas Canteloup et ses imitations face à Canteloup. C'est tous les jours 8h50 sur RMC. Il est 8h11, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h14 sur RMC. Il arrive en courant, il est tellement enthousiaste.
Dans ce studio, je vous trouve bien dissipé, les amis.
Bonjour.
Ça va bien? Alors, c'est ce matin, l'affaire Epstein continue. Il y a des nouveaux noms qui sortent tout le temps. Vous avez vu hier? Cette histoire avec Vianney et Michel Sardou.
Non,
arrête.
Avec les deux chihuahuas et la confiture de fraises.
Mais non,
c'est horrible, c'est horrible. Tout ça va jusqu'au roi Charles. Après, on savait que le roi Charles était un pervers. Quel genre de monstre accepte de tromper Lady Di avec Camilla? Faut être givré quand même. Non, c'est la vérité. La vérité, on va pas se mentir. Lady Di, même après son accident, elle avait une meilleure tronche que
Camilla.
Alors, comme cette affaire est assez déprimante, je propose qu'on se change les idées, Apolline, en parlant d'une actu feel good, un truc un peu printemps. Est-ce que vous avez vu ce directeur d'un funérarium du Colorado, condamné à 40 ans de prison parce qu'on a retrouvé 200 cadavres à son domicile?
Oh, mais non.
En vous souhaitant un bon petit déjeuner,
oh,
les gens. Non, mais alors là, je ne comprends pas la condamnation. Ce type ramène du travail à la maison pour être encore plus productif et efficace.
C'est la valeur travail.
La valeur travail, et on le punit. En plus, c'est quand même cool que quelqu'un se dévoue enfin pour garder nos aînés. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il remplaçait les cendres des défunts par un mélange à base de ciment. Et il a fallu 200 clients pour s'en rendre compte. C'est-à-dire que t'en as eu 199. Ils venaient récupérer mémé, on leur donne du ciment à la place. Ils voient pas la différence.
Bah, ouais.
J'espère que c'est pas eux qui vont chercher le gosse à la crèche. Enfin, il savait pas faire son boulot, ce type-là. Faut être nul pour faire ça. Il faudrait faire une émission pour l'aider. Genre, cauchemar en crématorium. C'est quoi ce bordel, John? Tu te fous de moi? T'as vu ce qu'il y a dans tes frigos? Des vieux pieds découpés?
Mais j'ai plus d'argent pour faire des crémations, chef. Mes parents m'ont jamais dit je t'aime.
Mais il n'y a aucun respect pour la chaîne du froid. C'est pas étiqueté. Qu'est-ce que t'as mis dans ta chambre froide? Non! 30 cadavres empilés les uns sur les autres.
Je ne vous permets pas, monsieur.
Je suis quand même directeur de l'Institut du Monde Arabe. Et ces personnes m'ont été présentées par Woody Allen il y a 60 ans. Nous avons un peu dit, oh, Jack Lang, vous n'êtes pas mort. Mais regardez dans quel état vous êtes tous. Oui, c'est parce que je leur ai donné l'adresse de mon chirurgien esthétique. Alors évidemment, vous comprenez. Ce serait une belle émission.
Très belle émission.
Pour la produire.
L'Institut de médecine spatiale recherche des volontaires pour rester allongés 10 jours. Contre 5 000 euros.
Nous,
ah
nous,
oui, on est là,
nous, on est là. Prenez-nous, nous cinq, hein, nous cinq.
Oui, oui.
Au lit pendant 10 jours, mais. Comment donc? Alors, il n'y a pas 3000 postes, hein, ça se saurait s'il y en avait 3000 lits disponibles dans les hôpitaux. Donc, ils recherchent que 10 personnes, entre 20 et 40 ans, sportifs et en bonne santé. Donc, c'est raté. Hein, c'est pour faire des tests sur l'apesanteur. 5000 euros pour 10 jours à rien faire. C'est mieux payé que sénateur. Heureusement que c'est interdit aux plus de 75 ans, sinon tous les sénateurs auraient postulé. D'ailleurs,
En parlant de ça, la spationaute française. Oui. Oui, on en parlait tout à l'heure avec Arthur Chevalier. Sophie Adenauve va décoller pour passer 9 mois dans la station spatiale européenne. Bravo à elle. Vous avez vu, Apolline, elle a un CV de dingue. Elle est incroyable. Ingénieure aéronautique, diplômée au MIT à Cambridge, pilote d'hélicoptère, pilote d'essai. Elle parle allemand, russe, anglais, espagnol. Elle fait du VTT, du ski, de la plongée. Elle est même prof de yoga. Quelle connasse, alors qu'il est là aussi. On n'avait pas assez avec Thomas Pesquet pour nous faire nous sentir comme des merdes. Il fallait la version féminine. Comme si les femmes n'étaient pas assez complexées comme ça. C'est même à ça que servent les magazines féminins. Il y a toute une littérature pour nous faire sentir mal. Nous, les hommes, tous les jours, on cherche le nom de Thomas Pesquet dans les dossiers Epstein. Hein, pour le savoir. Et rien, salopard. Alors, Sophie Adenauve va passer 9 mois dans la station spatiale. Elle pourra même emporter un smartphone dans l'espace. C'est une première. Même s'il ne servira pas à grand-chose, je pense. Hein. C'est comme l'emporter en Lozère, si vous voulez. Ça ne capte pas, il n'y a pas de réseau là-haut. Courage à elle.
Une proposition de loi, Arnaud, est étudiée au Sénat pour lutter contre les dérives des sites en IFAM, MIME, les plateformes qui proposent sur Internet du contenu à la demande, essentiellement pornographique.
Oui, vous saviez, vous, qu'il existait des sites de ce genre? Moi, je tombe des nues, j'ai découvert ça, c'était fou, j'ignorais. Mathieu et moi, on est tombés des nudes.
On est tombés des nudes.
Donc, ces plateformes fonctionneraient par abonnement, permettant aux utilisateurs d'acheter des médias personnalisés, si j'en crois, encore une fois, l'article que j'ai lu dans « C'est parce que tu crois, chérie, magazine ». Alors, plusieurs sénateurs ont alerté sur la multiplication des affaires de prostitution en ligne. Ils n'étaient pas contents. Ils ont dit « Si on veut que des femmes se déshabillent, on ne doit pas les payer en ligne ». On doit les droguer.
Oui, c'est ça, c'est les sénateurs.
Ouais. Ouais, c'est mauvais réflexe. Alors, jamais quand même, on avait vu autant les sénateurs bosser leur dossier. J'ai parlé un peu à tous. Hervé Marseille, il a passé toute la nuit à dialoguer avec Bonas du 91 pour le travail. Jean-Jacques Michaud, il a examiné le dossier de Coquine 69. Et Gérard Larcher a travaillé toute la nuit sur les comptes de Nikita Bomba, Vampire et la Lubrique, Lulu la Goulue, Pénélope l'Interlope, Ursuline la Vaseline, Béatrice la Provocatrice, Corinne la Coquine, Natacha la Geisha, Inès la Tigresse, Nicole la Chignole et Yvonne la Cochonne. Rien que ça. Super investi, hein, les sénateurs. Ça charbonne. Ça fait du bien de voir qu'on paye des impôts pour quelque chose.
Merci.
Ça sert.
Arnaud Demange, qu'on retrouve tous les jours donc en direct et en podcast et puis en tournée aussi avec un nouveau spectacle à Rouen, Toulon, hier, Clermont-Ferrand ou Dijon. Un spectacle RMC 8h20.
Détendez-vous sur RMC avec EPSI, une école du réseau compétences et développement.
On y est presque parce que c'est demain qu'on vous fait gagner cette somme exceptionnelle. Demain, c'est vendredi, mais c'est vendredi 13. La roue RMC est de retour. Il y a jusqu'à 30 000 euros à gagner grâce à la roue RMC. 30 000 euros cash, net d'impôts. Pour jouer, eh bien, c'est donc le dernier jour pour vous inscrire. Il est 8h20. Attention, top départ. Vous avez 10 minutes, pas une de plus, 10 minutes pour envoyer un SMS 13 au 7 32 16. 13 au 7 32 16. Vous pouvez l'écrire en chiffres, en lettres, comme vous le voulez. 13 au 7 32 16. Vous avez donc 10 minutes pour vous inscrire et pour jouer. 7h, 8h, 21. C'est jusqu'à 8h, 31 pour vous inscrire donc au 7 32 16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Ça fait beaucoup de chiffres. J'avoue, mais en même temps, il y a 30 000 euros à la clé. Donc ça les vaut. Allez, il est 8h21. Dans un instant, je pars côté RMC et BFM TV, côté télé. C'est Michel-Édouard Leclerc qui répond à mes questions. Et d'ailleurs, si c'était lui, bah oui, parce que figurez-vous qu'il est devenu numéro 1 des personnalités politiques préférées des Français. Michel-Édouard Leclerc, donc, s'il était président, qu'est-ce qu'il déciderait pour la France? Puis je vais aussi, bien sûr, l'interroger sur les prix dans les rayons, notre consommation. Ça se passe sur RMC, BFM TV dans un instant, 8h22. Merci d'écouter RMC, il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Élise Dangean.
La tempête Nils a déjà fait un mort dans les Landes. Un chauffeur poids lourd tué par une chute de branches d'arbres près de Dax. Un mort et deux blessés. Un grave à Castelsarrasin dans le Tarn et Garonne. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'annonce ce matin. Et un blessé léger, chauffeur poids lourd lui aussi, qui a percuté un pin sur l'autoroute A9 vers Lespignan dans l'Hérault. Par ailleurs, 850 000 foyers sont privés d'électricité ce matin, principalement en Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, qui compte 3 des 4 départements en vigilance rouge, la Gironde et le Lot et Garonne pour les crues, l'Aude pour les vents violents, 4e département en alerte maximale, c'est la Savoie pour le risque d'avalanche. Marine Le Pen a rendez-vous avec son avenir le 7 juillet prochain, date choisie par la Cour d'appel de Paris pour rendre sa décision dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National et pour dire si oui ou non la patronne des députés RN sera éligible en 2027. Une autre affaire qui a relancé cette semaine le débat sur la légitime défense. À Genas, dans la banlieue de Lyon, la mort d'un jeune de 19 ans abattu par un septuagénaire qu'il soupçonnait de vouloir cambrioler sa maison. Les faits se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi et hier, le propriétaire a été mis en examen pour meurtre après que plusieurs armes non autorisées et non déclarées ont été retrouvées à son domicile. Ils l'ont fait. Le duo de patineurs Cizeron-Fournier-Baudry a offert à la France sa 3e médaille d'or hier soir aux Jeux d'hiver de Milan-Cortina. Et ce, après seulement un an de travail ensemble, c'est une prouesse. La France qui peut aussi compter sur ses athlètes du biathlon, dont la moisson a encore été exceptionnelle hier avec ce doublé sur l'individuel 15 km femmes. Julia Simon a été sacrée championne olympique juste devant sa coéquipière Lou Jean Monod. La France pourrait de nouveau briller aujourd'hui en snowboard cross, début des épreuves à 9h55 à vivre sur RMC, radio officielle des Jeux. On refait un petit point météo avec un temps évidemment très perturbé, de la pluie et du vent sur tout le pays. Faites attention au phénomène de tornade qui pourrait se produire sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Côté température, elles sont en baisse, 10 à 15 degrés cet après-midi, 18 à Nice.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
C'était le rappel des titres d'Élise Dangean. Dans un instant, mon invité, et si c'était lui, Michel-Édouard Leclerc, qui est une nouvelle personnalité politique préférée des Français. Michel-Édouard Leclerc qui répond à mes questions dans un instant sur RMC BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Il est 8h28 et vous êtes bien sûr à RMC et BFM TV. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes aujourd'hui le président du comité stratégique des centres Leclerc, évidemment. Mais vous êtes aussi désormais la personnalité préférée des Français. Et c'est une révolution parce que jamais un chef d'entreprise n'était arrivé premier dans le classement des personnalités politiques. C'est le classement IFOP Paris Match de chaque semaine. Ça va finir par vous plaire, cette histoire?
Oui, oui, peut-être, hein. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de femmes, vous avez vu dans
non,
les classements.
Non, oui, enfin, n'essayez pas de noyer le poisson, on va parler des femmes après, mais enfin, vous.
Oui, c'est flatteur. Enfin, après, je suis pas dupe. Je suis, j'ai une bonne cote. Je me savais du talent, être un bon commerçant. D'ailleurs,
je vous invite aussi pour ouais, ça, ouais. Justement, pour nous parler des prix.
Je suis un bon produit aussi, ouais. Oui, pour parler dans les médias. Mais je serais pas ça, sans le réseau des 700 magasins. Leclerc et tout le réseau Leclerc et les politiques commerciales des centres Leclerc dans chaque territoire. D'abord, moi j'incarne une marque, mais une marque elle plaît quand elle est efficace. Donc c'est un principe d'efficacité, je pense que le consommateur plébiscite dans une opinion favorable. Et puis c'est aussi le fait que la préoccupation majeure des Français c'est le pouvoir d'achat. Le monde politique depuis 3 ans dit à des gens qui rament qu'il faut encore se serrer la ceinture, et on n'est pas nombreux, on est quelques distributeurs sur vos plateaux, comme Thierry Cotillard ou d'Intermarché ou Shell Cherche de Système U, à venir dire ce qu'on pourrait faire et tout ça. Et là, pour le coup, il y a une sorte de silence du monde politique sur les problèmes concrets des Français, sur les problèmes... Et ça bloque la consommation, et ça bloque l'énergie des Français.
Si vous voulez bien, on va faire une interview... Si vous étiez président, ouais. Vous président, précisément sur cette question d'abord du pouvoir d'achat, j'ai envie de dire c'est le plus facile pour vous, parce qu'ensuite si je vous interroge sur les questions de sécurité, sur les questions de logement, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Mais sur le pouvoir d'achat, quand vous voyez que les Français considèrent aujourd'hui que le travail ne paye plus, voilà. Vous président, vous feriez quoi?
Alors d'abord, j'aspire pas à être président, hein, on est d'accord.
Oui, vous redites toujours ça, mais je vous dis, je sens quand même que ça finira peut-être par vous intéresser.
J'ai envie de faire passer des idées politiques, j'ai envie de m'engager dans la vie publique, je fais société. Je ne suis pas simplement un entrepreneur, un patron qui défend sa boîte et sa fiscalité. Je défends la place de l'entreprise et je contribue à mettre la place de l'entreprise dans la demande sociale des Français. Ça, c'est très important. Je crois que c'est ça que les Français me reconnaissent. Et puis j'aime les gens, j'aime travailler pour les gens. Je n'aime pas travailler que pour l'idée de l'entreprise. Donc aujourd'hui...
On fait comment pour que les gens s'en sortent quand ils bossent?
Une des premières choses, dans l'insécurité, que ce soit... dans l'expression des sondages d'opinion, c'est le pouvoir d'achat ou l'insécurité. Mais les deux vont ensemble. Aujourd'hui, on ne sait pas si nos gosses toucheront leur retraite. D'ailleurs, il n'y a aucun jeune qui croit qu'il va toucher sa retraite, après les débats qu'on a eus. On ne sait pas combien d'années de travail il va falloir maintenant déployer pour pouvoir s'acheter un appartement. On ne sait pas s'il faudra acheter du vieux ou du neuf, parce qu'on ne sait pas si la prime rénov ou pas, ça va compter. Et donc, quels seront les prix des assurances et des emprunts bancaires. On ne sait pas s'il faut acheter une voiture, franchement. Et d'ailleurs, faut-il même passer son permis de conduire? Demandez-le à des adolescents.
Ils hésitent.
Hein. Donc, il faut lever tout ça. Et la première chose donc à faire, pour moi, c'est de relancer l'ascenseur social. C'est donner une perspective au travail en sortant de la trappe à basse salaire, en essayant de rapprocher le salaire net du salaire brut, donc décharger les cotisations patronales et les cotisations salariales et trouver d'autres sources de financement.
Vous ne dites pas comme Bernard Arnault que l'État français aujourd'hui joue contre les entreprises?
Non. Enfin, dans un débat politique...
Crée même du chômage, voilà l'expression qu'il a utilisée.
La situation française crée du chômage, mais imputer seul à l'État cette responsabilité, c'est oublier que les entreprises ont été demander beaucoup d'assistance, beaucoup d'argent à l'État aussi pour exister, y compris mes copains libéraux, quand on leur dit l'État...
Vous n'êtes pas libéral.
Je veux pas être classé. Je suis indépendant, je sens les trucs. Je vois bien que chaque Français, sans être une entreprise, on lui parle, il a un budget... Et aujourd'hui, la partie arbitrable de son budget, c'est très faible. Et on sort d'une période de 28% d'inflation sur l'alimentaire. Pour les Français qui sont clients des centres Leclerc ou des Carrefour, c'est le budget des ménages, c'est 20% dans l'alimentaire à peu près. En national, c'est 15%. Mais c'est énorme cette ponction. Et donc aujourd'hui, si j'étais décideur, pour rassurer et relancer l'économie française, j'essaierais de trouver de la croissance en augmentant le pouvoir d'achat des Français par l'augmentation des salaires, déchargés de ces cotisations qui bloquent le salaire dans le bas. Et ces cotisations, j'irai les chercher soit dans des fonds de capitalisation, soit dans une hausse de la TVA, notamment sur les produits importés, et ça élargirait énormément la source de financement du système social, soit j'irai faire cotiser les concurrents du travail, le numérique, l'IA, la robotique.
Ça fait longtemps que vous plaidez pour ça, en disant je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas cotiser les machines. Ben, c'est-à-dire que moi, lorsque j'ai effectivement une personne humaine, dites-vous, que j'embauche comme hôtesse de caisse, elle cotise. Alors que les machines automatiques, elles ne cotisent pas.
Voilà.
Et donc c'est évidemment une moindre argent qui rentre dans les caisses de l'État.
Et en plus, il y aura moins de gens au travail, la population vieillit. Donc mon iPhone, là, j'ai acheté un des derniers iPhones, il fait des très belles photos de Apple. Je fais des photos, elles sont pas développées, il y a pas de cotisation salariale du photographe, ni cotisation patronale. J'envoie des mails, ça fait plus travailler le postier. J'ai plus de secrétaire. J'ai un plan, j'ai des...
Donc tout ça, ça cotise pas. Donc l'iPhone ne cotise pas.
Voilà. Et alors, même si on relocalise des entreprises textiles ou de jouets de Chine, ce sera robotisé aussi, parce qu'on voudra pas des salariés au lance-pierre. Et donc, vous voyez bien que, il y a quelque chose de tabou en France à dire que pour faire vivre une génération après son temps de travail, on veut pas aller chercher de la ressource. On va chercher de la ressource que sur ceux qui travaillent.
Michel-Édouard Leclerc, vous président, est-ce que vous diriez aux Français de manger moins de viande?
Je le dirais pas, mais toutes les applications qu'ont nos enfants aujourd'hui mesurent leur taux de sucre, mesurent leur taux de sel. On est incité et je milite pour ça. Par exemple, sur toutes les marques de distributeurs Leclerc, on met le Nutri-Score. Je dirais manger équilibré. Faites du sport, bougez, mangez équilibré. Un peu la vieille pub d'Evian, bouger épicé. Là, c'était un peu ça. Je crois à ça et je pense que la nouvelle génération va imposer ce rythme de vie. Et c'est de fait, depuis 10 ans, la viande, la consommation de viande diminue de presque 2% par an.
Et la phrase du gouvernement dans son nouveau guide de stratégie nationale sur l'alimentation qui dit qu'il faut réduire la consommation de viande importée. Ça, vous signez ?
Oui. Tout à fait. La viande importée, la distribution n'est pas grosse importatrice des viandes. Par exemple, dans le débat sur Mercosur, on a pris la position des syndicats agricoles. Nous ne sommes pas impactés ni acteurs du Mercosur, quand bien même la restauration ou l'industrie
C'est tout le problème, c'est que quand on achète soi-même le poulet directement à l'état brut, j'allais dire, oui, en effet, c'est plutôt un achat français. Le problème, c'est la restauration.
Peut-être un peu moins en ce moment parce qu'il y a eu un déficit
parce qu'on n'en produisait pas assez,
mais globalement. En tendance normale, la volaille va redevenir autosuffisante.
Si on n'en produit pas assez, un certain nombre de revendications des agriculteurs, c'est aussi de dire que l'État français, par un certain nombre de normes ou de surtransposition d'un certain nombre de normes, est plus difficile avec ses propres agriculteurs qu'avec nos concurrents réels. Est-ce que nos concurrents les plus proches, est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce que la France s'est tirée une balle dans le pied?
Je partage l'analyse de la discrimination, mais je n'en tire pas les mêmes conclusions. C'est-à-dire, oui, on exige de nos producteurs, des distributeurs aussi, et des services, des normes pour faire que la France soit mieux décarbonée, soit que l'économie soit plus vertueuse, que l'alimentation soit plus vertueuse, etc. Donc, moi, je ne crois pas que le marché soit vertueux par nature. Donc, d'avoir un État qui guide cette évolution de la consommation, je trouve ça normal. Par contre, qu'on laisse introduire en France des produits de Chine ou d'Amérique latine qui ne respectent pas les normes qu'on impose à nos producteurs, là, ça va pas. Et c'est là où il faut négocier. C'est là où il faut être conquérant. C'est pas tant de mettre des taxes ou de dire qu'on va taxer le produit chinois. Faut exiger de l'entreprise chinoise l'adaptation à nos normes.
Alors j'allais y venir parce qu'effectivement, on se retrouve quand même dans ce bras de fer. D'ailleurs, l'Union européenne elle-même commence à en prendre conscience entre, en effet, les États-Unis. Et la Chine, certains, comme le patron de la BPI, la Banque publique d'investissement, dit il faut que la France se referme le temps de se réarmer, sinon ce sera un tsunami sur toutes nos entreprises. Et il dit de la Pologne, toutes nos PME, de la Pologne jusqu'au bout de la Bretagne, ça devrait vous parler. Michel-Édouard Leclerc, est-ce qu'en effet, il faut que la France se referme ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'on impose, nous, nos normes aux autres?
Je pense qu'il faut conditionner l'accès du premier marché mondial, l'Europe, à nos normes. À la qualité de vie qu'on veut avoir, à la qualité de vie, environnement, santé, qu'on veut laisser à nos enfants. Et donc, ça, un entrepreneur chinois, il peut comprendre. Il n'aime pas qu'on dise les Chinois vendent de la merde, pas plus que dans le débat sur Mercosur, ils n'aiment pas qu'on dise ils vendent que du bœuf aux hormones. C'est quelque chose de désobligeant, voire raciste. Enfin, c'est étonnant. Mais par contre, un entrepreneur chinois, vous lui faites son cahier des charges et vous lui dites vous ne rentrez dans mes magasins ou vous ne rentrez sur le marché français que si vous respectez ces normes écologiques, recyclage, on intègre les conditions sociales de production. Et d'ailleurs,
et dans ces cas-là, il s'adapterait. Il suffirait que nous, on soit ferme là-dessus.
Let me say. Non seulement
les États-Unis, je le dis, vous êtes un peu en décalage horaire.
Ouais. Mais de Chine, aujourd'hui, là, dans les centres Leclerc, 4000 produits textiles à marque Tissaya, notre marque de distributeur, vont afficher leur éco-score. C'est-à-dire que sur le paquet, ça va bouger tout le temps. Donc, on renvoie un QR code qui renvoie sur Internet. Dans chaque produit, on va dire les conditions de production, l'émission de carbone de ce produit, le t-shirt, la veste, etc., les conditions sociales de production validées par des certificateurs internationaux, et ça va permettre aux consommateurs de suivre cette évolution. Et c'est une pression qu'on met aussi sur les producteurs chinois qui veulent vendre en France. S'ils veulent vendre en France, il va falloir qu'ils diminuent aussi leurs conditions de
donc vous leur imposerez de, vous leur imposerez leur impose de rentrer et d'avoir
ça,
cette
et on va faire ça avec tous nos fournisseurs.
Vous avez le gouvernement qui devrait
diminuer de moitié en 2035. D'ici 2035, on va diminuer de moitié nos émissions carbone. Un groupe comme Leclerc doit émettre dans tout ce qu'il vend, et on vend beaucoup de carburant, donc on émet beaucoup de carbone, de poids carbone. Ça doit être aux alentours de 53 millions de tonnes, ou milliards, même je sais plus. Enfin, c'est très énorme, et on divise par deux ce poids-là.
Donc ça, vous gardez cette ligne-là, alors qu'effectivement aujourd'hui, il y aura sans doute les premières orientations enfin dévoilées sur la question aussi de l'orientation énergétique, avec en gros la question de la balance entre le nucléaire et le renouvelable et l'éolien. Vous, président, vous choisissez quoi?
Alors, les deux. Alors, refaisons pas le coup du temps de Nicolas Hulot où on disait pas l'un pas l'autre. Je pense qu'aujourd'hui il faut une production diversifiée d'énergie. La souveraineté est à ce prix. Donc un programme nucléaire, mais des fois que ça coûte trop cher. Ça, en tout cas, un programme nucléaire, mais des énergies alternatives. Et d'ailleurs, nos distributeurs, on entend être quasi autonomes dans la production d'énergie énergies. On nous a obligés déjà de mettre des panneaux solaires sur nos parkings. Donc le plan on l'a fait accélérer un petit peu, mais déjà on a des hectares et des hectares de panneaux solaires. Nous sommes autoproducteurs. Nous avons des bornes électriques, plus de 5000 bornes aujourd'hui qui sont pas toutes utilisées. Parkings, mais... Et nous lançons un truc que personne n'a fait jusqu'ici. C'est il y avait la bataille des carburants. On affichait les prix, vous vous rappelez le prix coûtant, vous avez fait parler de ça souvent. Ben maintenant, on va faire la même chose pour les charges électriques. Nous allons afficher le prix dans une forme telle qu'il soit comparable avec les autres bornes. On va lancer un marché de la recharge avec des rabais, avec... de la possibilité
donc, y aura pas
de charger moins cher
que sur le carburant, mais aussi sur les... Michel-Edouard Leclerc, quand je vous écoute depuis le début de cette interview, je vous trouve très vertueux. Vous êtes toujours du bon côté, j'ai envie de dire. Mais quand on écoute, et c'est vraiment une déclaration à l'AFP, à nos confrères de l'AFP de ce matin, l'Association de défense des consommateurs Famille Rurale, elle a annoncé ce matin à l'AFP vouloir saisir l'autorité de la concurrence pour demander l'ouverture d'une enquête sectorielle contre la grande distribution, donc pas contre Leclerc, mais contre tout votre secteur. Et au fond, elle vous accuse, vous tous, de freiner l'accès à une alimentation saine. Ce qu'elle constate, c'est qu'il y a, je cite, une péréquation des marges. En gros, vous baisseriez vos marges sur la malbouffe, vous augmenteriez vos marges sur les fruits, les légumes, l'alimentation saine, et donc, en gros, vous inciteriez finalement les familles à acheter des produits mauvais pour la santé, et vous feriez plus de marge sur les produits sains. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Bah bon, ça fait 40 ans que les représentants du lobby agroalimentaire disent ça, c'est anti-distribution. Le bio, c'est nous qui l'avons développé en France, hein, sinon c'était que dans des circuits sélectifs et très chers, et ces associations-là ne nous ont pas soutenus. Aujourd'hui, Leclerc, sur ses marques premier prix EcoPlus, on affiche le Nutri-Score. On défend le Nutri-Score. Nous réclamons la généralisation du Nutri-Score. Vous savez, ces petits barèmes qui vont de A à E ou qui vont de vert à rouge pour que chacun puisse choisir des produits de meilleure qualité. Et puis, nous développons l'Origin-Score. Et l'Origin-Score, c'est sur les principaux... C'est Olivia Grégoire
qui avait défendu ça.
Mais surtout nos produits aujourd'hui. Le consommateur peut choisir son miel, sa confiture. Ça, c'est marqué l'origine des quatre principaux ingrédients de ce que l'on vend, et maintenant le carbon score.
Donc c'est pas juste. Donc, ce qui est dit pour vous, vous défendez tout à fait.
En fait, tout le monde vient me chercher parce que, je vais le dire, ça paraît prétentieux, mais comme je suis numéro un sur les réseaux sociaux, et y compris l'enseigne,
c'est le revers de la médaille, quoi.
Toute querelle qui vient nous chercher fait monter l'algorithme de celui qui vient nous chercher. Donc,
est-ce que c'est le cas aussi des députés qui, hier, en commission d'enquête, alors c'était au Sénat, pardon, ouais, en comité, commission d'enquête sénatoriale sur la question justement des marges, ont interrogé deux représentants de votre centrale d'achat, Eurelec, et ces sénatrices en l'occurrence d'ailleurs, notamment une qui est écologiste, reprochent à vos représentants, les représentants d'Eurelec, qui est donc la centrale d'achat basée en Belgique, qui achète pour Leclerc, mais pas seulement pour Leclerc, pour l'allemand Rêve et pour le belge Deleuze, achète les produits auprès des très gros industriels internationaux. Ouais. Et voilà ce qu'elle leur a dit, mais est-ce que au fond, on n'est pas en train de découvrir que le premier distributeur de France, elle parle de vous Leclerc, échappe ou essaye d'échapper à la réglementation française? Et elle ajoute, la rapporteure de cette commission sénatoriale, c'est quand même très embêtant.
Bah d'abord, ce qui est embêtant, c'est qu'une sénatrice oublie de dire qu'une réglementation française doit être européenne. Il ne devrait pas y avoir de contradiction. Hein, c'est le fabricant de la loi, c'est au fabricant de la loi de se mettre
au diapason. Donc c'est la faute de la loi de pas vous avoir imposé de respecter la loi.
Ce que je veux dire, si c'était vrai, c'est la loi française qui poserait problème. La deuxième chose, quand Air France et KLM s'allient et que le siège est aux Pays-Bas, on dit pas d'Air France qu'il est allé se mettre là-bas pour échapper à la loi française. Quand Arte, issu du secteur public français et de la télévision allemande, mettent leur siège à Strasbourg, c'est pas pour échapper
à la loi allemande.
Et toutes nos multinationales sont multinationales. Expliquez-moi pourquoi, alors que les chaînes de télévision, alors que la banque, la téléphonie ont le droit de faire des alliances européennes, pourquoi le secteur de la distribution ne pourrait pas s'allier? Et d'ailleurs, entre nous, c'est quand même une sacrée leçon pour le service public, qui achètent mal, qui achètent cher. Souvent, ils achètent des papiers pour les administrations, quelquefois le double de ce qu'on vend dans les magasins. L'UGAP, les grandes centrales d'achat de l'administration, sont désormais, aujourd'hui, obligées de faire des appels d'offres européens. Donc, ils sont comme nous. Donc, c'est faudrait que les députés et sénateurs, je leur dis gentiment, viennent faire un petit tour en magasin.
Pourquoi ils viennent
chercher vous ? Ils viennent chercher le modèle. Mais c'est quand même très bizarre de prôner l'Alliance européenne sur tous les secteurs, sauf dans la distribution. C'est bizarre. Moi, quand je discute avec Nestlé, il est suisse et il est international. Et je représente 3% de son chiffre d'affaires. Que je le négocie en Belgique ou en France, le lieu est pareil. Mais je m'associe avec d'autres.
Vous pourriez finalement peut-être pas président de la France, mais vous pourriez être président de l'Union européenne.
C'est un truc à réfléchir.
Ah, ça, ouais. C'est à réfléchir. Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
L'info revisitée par Nicolas Canteloup. Michel-Édouard Leclerc était mon invité ce matin et il est resté avec nous. Rebonjour Michel-Édouard.
Rebonjour, moi je vote Canteloup.
Il est resté avec nous, vous l'entendez. Un moment de souhaitez-vous dire un mot, Michel-Édouard Leclerc ?
Salut la compagnie. Bonjour Michel-Édouard, mon collègue entrepreneur. Voilà. Hein. Bon, Michel-Édouard, il y a un truc que je ne comprends pas. T'as la vista, on le sait. Je comprends pas que t'aies laissé Intermarché s'approprier l'image du loup. Alors que t'es quand même beaucoup plus légitime qu'eux. En plus, t'es breton, tu peux faire plus fort qu'eux. Tu fais le loup, le renard et la belette. Bon, bref, parlons ce qui intéresse tout le monde. Hein, et c'est de savoir si t'y vas ou t'y vas pas. Je parle pas d'ouvrir des supermarchés Leclerc au Groenland. Hein, on parle de bien 2027. Hein, quoi, à propos de Groenland, en parlant de ça, vous savez que j'ai été contacté par la marque Picard.
Non.
Pour développer des supermarchés au Groenland. Et j'ai, ben oui, et là, c'est une super idée. J'ai décidé de déployer tout ça, Picard au Groenland, parce que t'économises sur la chaîne du froid. Ouais, ouais, j'ai toujours un coup d'avance. Bon, écoute, Michel-Édouard, je te laisse réfléchir pour le 2027 et surtout pour le loup, le renard et la belette.
Merci beaucoup, Arnaud Montebon. Oh. Tout de suite, on retrouve Stéphane Bern pour les titres de l'actualité. Oh, bonjour Stéphane.
Oh, oui, bonjour, Pauline. Tout le monde est là. Laurent, Arnaud, ils sont tous là, il y a du lourd. Bonjour. Bonjour au petit épicier Michel-Édouard Leclerc, avec qui, au fond, nous faisons un peu le même métier. Lui avec ses produits et moi, avec mes dernières émissions, nous montrons que nos régions ont du talent. Voilà. Sauf que lui, il n'est pas obligé de se traîner à Bar-le-Duc pour s'extasier devant des bacs à fleurs municipaux. Bon, allez, c'est parti pour les titres. On commence par le dossier Epstein, bien sûr, où l'on découvre chaque jour davantage de nouveaux noms, milliardaires, de célébrités, de présidents, de princes et autres têtes couronnées. Mais moi, je suis pas dedans. C'est bien la première fois que tout le quota est réuni quelque part sans que je sois moi aussi parmi eux. Mais pour une fois, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, élection municipale à Nice, l'ancien journaliste sportif Gérard Holtz a annoncé rejoindre la liste du maire sortant Christian Estrosi. Et il est avec nous en exclusivité.
Bonjour. Bonjour Apolline, bonjour Michel, moi Laurent, il est là, Arnaud, tout le monde est là, génial, génial. Et j'adore surprendre. Je suis engagé, oui engagé pour Nice. Vous me connaissez, j'ai toujours eu à cœur de m'engager pour le Téléthon. Eh bien ma grande cause aujourd'hui, c'est Nice et les Niçois. Moyenne d'âge très élevée aussi, très élevée la moyenne d'âge. La moyenne d'âge est très élevée. Il y a tant de gens qui souffrent à Nice, alors donnez. Si vous avez chez vous une hanche en plastique, une rotule en céramique, une prothèse de genou, un anus artificiel, même usage. Un dentier, n'importe quoi, donner. Il faut aider les Niçois. Et pour prouver mon engagement auprès de Christian Estrosi, je lance un appel à tous les bras cassés. Rejoignez Eric Ciotti.
Ah oui, merci Gérard. Patrick Bruel lance une nouvelle tournée intitulée Alors Regarde 35. Elle fête les 35 ans de son album culte Alors Regarde, qui lançait la Bruel Mania.
C'est fou cet album. Il y avait que des tubes, alors regarde, Place des grands hommes, je te lis quand même, Casser la voix, et que des tubes.
Oui, ben on oublie effectivement, c'est la ferveur de l'époque. Une fois que vous avez même dû être escorté par la police, c'était dingue. Ouais. Vous mangiez dans une pizzeria sur les Champs-Élysées, vous avez été obligé de...
Je m'en souviens comme si c'était hier, il y a des milliers de filles qui s'est passé le mot et qui m'attendaient dans le resto, il y avait une émeute, impossible de sortir, j'ai dû appeler la police.
Donc 35 ans se sont passés, vous lancez une tournée pour fêter ça, dans quel état d'esprit êtes-vous ?
Ouais, mais honnêtement Apolline, je vais dire, j'ai une petite appréhension quand même, toujours un peu toujours une petite peur, quand même, une petite peur.
Mais... quoi, que le public soit pas au rendez-vous?
Non, que le même public soit au rendez-vous. Non, parce que tu comprends, les filles qui criaient Patrick, à l'époque, elles avaient 25 ans, et 35 ans plus tard, ben, elles en ont 60. Putain, t'imagines l'angoisse si demain je vais manger dans une pizzeria et là que je suis bloqué par des milliers de petites vieilles qui m'attendaient à la sortie.
Ça, c'est moins de l'amour.
Oh putain, j'ai l'image. Une marée humaine de cheveux bleus qui soulèvent leur déambulateur et qui me jettent leurs dentiers en criant Aïk, Aïk. Hein, ben, oui, ben, oui, parce que sans leurs dentiers, on comprend pas qu'elle de ce qu'elle dit.
Hein. Ouais. Ça vous fait
pourquoi,
le coup.
Non, mais pourquoi j'ai fait cette tournée? Tu crois que je peux annuler?
Non, mais ça va être très bien, Patrick. Et puis, vous allez chanter votre tube. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans.
Ouais, mais enfin, quand tu donnes rendez-vous dans 10 ans à une fille de 25 ans, c'est cool. Mais une fille de 60, hein, c'est pas sûr qu'elle soit encore là dans 10 ans. Hein. Même jour, même heure, même pomme. Mais il y a des risques qu'elle soit flétrie, la pomme.
Merci, Patrick. Tiens, dans mon bout, vous êtes de retour.
Oh,
pourquoi vous revenez?
Oh, oh oui, j'ai entendu le Gabruel.
Ouais, le Gabruel.
Et ça m'a donné une super idée pour Michel Edouard.
Ouais.
Une idée 3 en 1. Tu récupères l'image du loup, tu niques Intermarché et tu te positionnes pour 2027. Vous êtes prêts?
Oui, on est prêts. Oui,
3-4.
J'ai besoin qu'on m'aime, tout le monde le comprend. Une marque repère, c'est pas marrant. Marc, on m'interroge sur le prix d'une plaque de beurre, le prix d'une boîte de salsifis. Car aujourd'hui, je pense à l'Élysée.
Je pense
à l'Élysée. Les gens me connaissent grâce aux rayons produits frais. Mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies et cette envie de pouvoir cacher au fond de moi?
Exceptionnel! Exceptionnel, Nicolas! Face à Canteloup! Et on se retrouve dès demain, 8h50 sur RMC. Évidemment, il y a tout moment en podcast. Merci, Michel-Edouard Leclerc, d'être resté avec nous dans un instant des GG. Alain, quel est le programme?
Eh bien, dans les GG, on reparlera de la tempête Niels, parce que qu'est-ce que ça doit nous pousser comme réflexion, avoir comme réflexion ces tempêtes à répétition aujourd'hui dans nos infrastructures, nos polices d'assurance qui vont augmenter aussi. Vous venez en discuter avec nous. On reviendra sur l'affaire Epstein, un fonctionnaire, un diplomate du Quai d'Orsay touché. Est-ce que le Quai d'Orsay a voulu étouffer l'affaire? On reviendra aussi sur décision pour Marine Le Pen qui interviendra début juillet. Est-ce que la justice prend trop de temps? Vous venez en parler avec les grandes gueules et aujourd'hui dans les GG, nous serons avec le cuisinier Yves Candebord. Nous serons aussi avec Barbara Lefebvre, l'enseignante. Et puis avec Laura Barton-Martinez, elle est sophrologue. Allez, à tout de suite avec les grandes gueules de 9h à midi en direct au 32-16.